Bonjour, bienvenue à Innove et Créa. Aujourd'hui, c'est vraiment un épisode spécial parce qu'il va être diffusé jour pour jour, un an après mon premier épisode. Donc, je suis super fière d'avoir fait un an de podcast. Puis, mon plaisir, c'était d'interviewer ma bonne et grande amie Cindy Labrec. Allô, Cindy!
Allô! Bravo! Félicitations! C'est un bel anniversaire!
Oui, hein, je suis vraiment super contente! Ça fait longtemps que je te parle du podcast, ça fait longtemps que je vais t'interviewer.
Mais je suis une fan, hein?
Ben oui, en plus, la première heure, ça me touche.
Sérieusement, vraiment, là, je les écoute et c'est tellement intéressant. À chaque fois, chaque épisode, j'apprends tellement de choses. Merci, bravo de faire ça.
Oh, bravo, c'est gentil. Merci. Cindy, t'es céramiste, t'es artiste multidisciplinaire, j'ai appris tellement de choses sur la céramique à cause de ta pratique. Puis, ça fait longtemps que je te dis que je veux qu'on en parle. Je veux que les gens comprennent à quel point la céramique, c'est un art complexe, riche, mouvant. Je pense qu'il n'y a personne qui suspecte à quel point il y a de la job en arrière d'une pièce qui est conçue, travaillée et qu'on achète. Puis je veux vraiment qu'on parle de ça parce que pour moi, c'est probablement une des pratiques les plus complètes de prototypage. Puis je veux vraiment faire découvrir toute cette pratique-là à tout le monde. Mais avant de commencer, la question racine, c'est à toi que je la pose maintenant.
C'est ton tour. Je sais à quoi m'attendre.
T'as pu te préparer.
Ben, un petit peu, mais bon. Hein.
Fait que Cindy, quand t'as 10-12 ans, qu'est-ce qui te fascine? Qu'est-ce qui t'intéresse?
Hey, moi, je pense que c'est ça. Réponse un peu plate, là, mais tu sais, en même temps, je sais pas, on dirait que moi, je voulais être artiste dans la vie. Tellement clair.
Ah, oh, wow!
Mais c'était comme... J'avais
naturel!
Bon, c'est ça. J'avais un talent inné, de toute évidence, c'est ça. Donc, tu sais, bon, quand t'es bon à quelque chose, forcément...
T'en fais plus, t'as une propension à ça.
T'es encouragé aussi.
Oui.
Fait que bon, ça m'a aidé. Ce que j'aimais, tu sais, c'est ça. Je dessinais, j'écrivais la musique. Moi, j'ai grandi, j'étais pas dans un village, j'habitais pas proche de chez mes amis, disons, donc j'étais un petit peu excentrée, campagne. Fait que j'ai grandi en jouant dehors.
En te divertissant, en fait, faut que tu... Il y a un peu ça
exact,
aussi.
Exact. J'aimais beaucoup faire des choses. Moi, je jouais au Barbie, là. J'aimais ça, mais j'aimais ça faire le linge de mes Barbies. Ça, c'était quelque chose, j'ai appris à coups de jeune, justement, parce que ma mère faisait notre linge quand on était petit. Quand on était jeune. Donc, c'est vraiment quelque chose que moi-même, je me suis mis à gosser, là. C'était vraiment de base, mais justement, l'ayant appris, moi, j'aimais ça faire ça. Je faisais même les cahiers de mes Barbies pour faire la classe. Mais oui, wow. Je faisais tout. T'sais, dans le fond, c'est ça. Juste en y réfléchissant 2 secondes, j'aimais vraiment faire de tout. Puis faire, c'est ça, faire avec mes 10 doigts, construire des cabanes en carton à partir d'une boîte de micro-ondes. Pas des cabanes, mais des maisons. Là, carrément, là, construire une maison, après ça, faire des rénaux, faire le deuxième étage, ouais, avec du tape et du carton. Tu sais, c'est vraiment du bricolage, mais tu sais, construire quelque chose à partir de rien. Ça, j'aimais vraiment ça. Puis ça, écrire, lire...
Fait que c'est toute la création, au final, c'était de créer. Si tu savais, jeune, que tu voulais être une artiste puis vivre que ce soit ta vie, c'est quoi ta progression à aujourd'hui, présentement, en fait, même au niveau du son, on est content que le son est bon, mais il y a peut-être un peu plus d'écho parce qu'on est dans ton atelier. Fait que qu'est-ce qui se passe comme parcours pour Cindy entre... La petite fille qui coud des vêtements, qui construit des petites maisons, puis tout ça, puis la femme qui a son atelier de céramique.
Ça peut être en ligne droite, étonnamment, là, avec le recul, tu sais, c'est facile de faire, de dire, ah oui, j'aimais vraiment ça, puis tu sais, c'est clair que maintenant, je vois le lien, mais on dirait que je pense que j'étais un petit peu naïve ou, tu sais, un côté innocent, mais pas...
Candide.
Candide.
J'aime beaucoup ça.
Ouais, ah, oui, 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 oui. J'avais ce côté candide-là dans le genre, je vais l'essayer, puis on verra où ça va me mener, là.
C'est curiosité.
Ça. Oui, c'est ça. Puis j'avais pas des parents qui me disaient, ouais, tu devrais peut-être aller étudier là-dedans pour, tu sais, bien gagner ta vie.
Ouais, ouais, ouais.
Des parents quand même ouverts.
Uh-huh.
Tu sais, même, tu sais, si on n'était pas riches, là, chez nous, mais mes parents avaient l'ouverture de me laisser aller essayer ce que j'avais envie d'essayer. Fait qu'évidemment que je suis allée au cégep en art, okay. Mais j'ai décidé de faire le métier d'art, en fait, parce que il fallait que j'apprenne une matière, on dirait. Okay. Je voulais juste pas aller au cégep puis revivre mes cours d'art plastique du secondaire. Uh-huh. Tu sais, on dirait que j'avais comme cette appréhension-là en tête. J'étais comme, je veux vraiment apprendre techniquement une matière. Je veux dire, les beaux-arts existaient plus déjà.
Ouais, ouais.
Fait que je m'en allais dans quoi? J'ai pensé faire photo.
OK, oui, parce que c'est une super photographe ben, aussi.
C'est parce que là, l'affaire, c'est moi là, je me suis mis à faire plus de photos plus tard, mais ça m'intéressait, sauf que là, j'avais un choix à faire. Puis, la photo, c'est une autre technique encore.
Mm-hmm,
là. Mm-hmm. Que, c'est sûr que ça me travaillait, mais finalement, j'ai choisi de faire métier d'art parce que ça m'appelait comme matière. Et j'ai fait mon DEC en métier d'art céramique à 17 ans, sortant de secondaire, okay. Dans le fond. Puis après ça, j'étais allée à l'université en art visuel parce que en finissant, j'avais 20 ans quand j'ai fini le cégep. J'étais tellement pas prête à me lancer dans une carrière d'artiste, travailleur autonome.
Mais oui, entrepreneur, comme ouais, j'aime le
dire. J'étais juste vraiment, vraiment pas prête dans la vie. Même si j'aurais pu avoir été juste plus mature, j'aurais eu tous les outils qu'il fallait.
Okay.
Mais j'étais juste pas là dans ma vie, dans le fond. Puis j'avais le goût d'explorer la peinture, le dessin plus, puis la photo, puis tout ça. Puis j'ai fait ça à l'université.
Okay.
Puis c'est ça, je me suis orientée plus dans l'image, photo, vidéo même. Par la suite, un coup que j'ai eu fini l'université, j'ai décidé de revenir un peu vers la céramique pour intégrer mes photos. C'était vraiment ça, d'intégrer la photo à la céramique par transfert d'image.
Mm-hmm.
Chose que je fais toujours aujourd'hui. Donc, c'était vraiment le début un peu de ce que j'allais faire.
Parce que, évidemment, dans les notes d'épisode, je vais mettre tous les liens. Puis les gens qui ne te connaissent pas vont découvrir ce que tu fais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les animaux que tu représentes sur tes pièces utilitaires présentement, c'est des dessins que tu as fait toi, là.
Oui.
C'est combien d'animaux que tu as maintenant que tu es liste?
J'en ai 28 dans la collection. Oui, c'est ça. Là, ça fait une couple d'années que je n'ai pas fait d'ajout.
Mais quand même, tu sais.
Oui, c'est à la main.
Puis tu sais, c'est de la recherche que tu fais. Puis c'est vraiment ça que je veux que les gens comprennent. C'est la quantité de travail qu'il y a en arrière qui vient d'un intérêt puis d'une passion. Mais c'est pas fait, comme j'aime le dire, la nuit par des petites fille, là, c'est toi qui prends le temps, qui, pendant tes vacances, de dessiner. Fait que là, t'as fait ton deck céramique en métier d'art, après t'as fait ton bac en art visuel, t'as aussi voyagé, t'as travaillé comme graphiste, t'as fait plein de choses.
C'est ça qui est arrivé. Après, c'est justement, tu sais, comme arriver dans la vraie vie, ben c'est ça, l'enfant, c'est qu'il faut que tu gagnes ta vie, fait que qu'est-ce qu'on fait? Job alimentaire, en même temps de continuer ma pratique. Ça a duré pendant quelques années, mais effectivement, le voyage, moi, c'était clair que je voulais partir. C'était sûr et certain que c'était des expériences de vie que je voulais vivre. Puis, du côté céramique, disons, j'avais comme déjà amorcé une production, les débuts même de la production que j'ai là, tu sais, c'était 2007, en sortant de l'université, tu sais, c'était déjà là, c'était déjà amorcé. Sauf que justement, tu sais, pour de là en vivre, c'est pas évident.
C'est ça.
Ça prend vraiment beaucoup de détermination. Puis, ben justement, il y avait comme juste trop d'autres projets de vie que j'avais envie de vivre aussi. Puis tout en essayant de penser comment je vais pouvoir, c'est ça, vivre de tout ça. Donc, c'est ça, il y a eu des voyages après. Puis c'est ça, pendant mes études, j'avais étudié en partie aux États-Unis pendant une session, en fait, à l'université. Puis j'ai justement, le système étant différent là-bas, j'ai comme eu accès à des connaissances un peu plus techniques, disons, tout ce qui est retouche, mettons, Photoshop, Illustrator, des cours d'illustration, en fait.
Okay.
Je me retrouvais à avoir des cours un peu de graphiste là-bas.
Uh-huh.
Puis c'est ça, puis c'était plus axé technique. Fait que moi, je tripais vraiment. Photo numérique aussi. Ben c'est ça. Fait que ça m'a fait comme des bases. J'ai pas étudié, moi, en graphisme dans la vie. C'est comme arrivé par après.
Mm-hmm, par la bande,
exactement.
Là. Puis t'en as vécu, tu sais, t'as été aussi.
Oui, t'as eu
ce travail-là aussi. Là.
J'ai fini par avoir ce travail-là à travers. Après avoir, c'est ça, cumulé de l'expérience à gauche, à droite. Puis finalement, ben oui, j'ai fini par travailler là-dedans. Mais pour finalement me rendre compte après presque 2 ans que pour moi, le travail de bureau, ça ne marchait juste pas. C'était pas suffisant. Il manquait quelque chose. Puis, c'est ça, finir ces journées brûlées. Puis finalement, j'avais pas l'impression d'être capable de travailler sur quoi que ce soit de plus créatif, en fait, en dehors.
Puis c'est une vraie problématique. C'est une vraie, j'ai envie de dire, douleur quand t'es un artiste. C'est viscéral, là, le besoin de créer. Puis quand tu te ramasses en décision, pour l'avoir vécu moi-même, d'être à ton bureau, moi, j'ai un souvenir très spécifique, mais être dans un bureau où le projet avance pas, puis c'est hors de mon pouvoir, là, je peux rien faire. Puis d'être à mon bureau pendant très longtemps et d'avoir fait toutes les recherches que je pouvais potentiellement imaginer sur ce projet-là, puis de me dire... Maudine, je pourrais être dans mon atelier en train de peindre, tu sais, puis je suis poignée dans mon bureau. Les gens qui n'ont pas ce besoin-là peuvent pas imaginer le mal-être puis la douleur que ça peut créer chez quelqu'un qui en a le besoin. Puis c'est ce qu'il faut imaginer. Tu sais, je trouve que la société a beaucoup targué les artistes de soit des gens, tu sais, qui cadraient pas ou qui étaient désorganisés, pis ça. Mais c'est ne pas les connaître, ne pas en connaître dans sa vie pour dire ces choses-là. Parce qu'il faut, à ce moment-là, conjuguer tellement de vies différentes. Ta vie alimentaire, ta vie créative, ta vie personnelle. Puis, ce que je trouve extraordinaire, c'est que la progression, toi, dans la carrière, c'est que, OK, t'as tout fait ça, là, t'as décidé, je vais retourner à la céramique, mais faut pas penser que t'as systématiquement été chercher un local, Non! Non! Tu sais, pour avoir participé et été témoin de tout ce beau travail, d'abord, tu as travaillé avec d'autres céramistes où il y a un partage d'ateliers avant de pouvoir être ici toi seul. Puis ça fait combien de temps qu'on dit ça? Ça fait 3 ans. Ça va aller vers 4. Fait que tu sais, c'est pas simple, mais tu as réussi. Puis ça, moi, je te lève toujours mon chapeau. Parce que t'es tellement une bonne entrepreneur, tu sais, super structurée, tu fais tellement 360 ce que tu fais, à cause de toute l'expérience multiple que t'as eue aussi, c'est ça qui est extraordinaire, fait que tu te sers toi-même dans tous tes besoins parce que t'as toutes ces connaissances-là, là.
Ouais, absolument. Ben c'est drôle, l'atelier, ça me faisait peur. Puis ça m'a longtemps fait peur parce que pour moi c'était l'engagement. Tu sais, la céramique c'est de la matière, tu sais, c'est des matières premières qui sont lourdes, qui prennent de la place, ça prend de l'espace, puis ça prend quand même de l'équipement, et ça prend beaucoup de choses, tu sais, comme pour être quand même bien installé. Puis ça, pour moi, c'était vraiment un gros engagement, puis ça m'a pris des années avant d'être prête à le faire. Alors, je me sentais justement, j'ai travaillé dans des endroits, j'ai fait un peu ma production au centre de céramique de Sainte-Foy parce que j'avais accès aux locaux, puis c'était possible à ce moment-là, tu sais, vraiment que je commençais, on parle 2008, ça fait longtemps. Puis ensuite, ouais, c'est ça, j'étais en colocation d'atelier avec 4 puis 3 céramistes. Puis c'est vraiment un passage, moi, une expérience que j'ai beaucoup, beaucoup aimée parce que mine de rien, je sortais pas directement de l'école quand je me suis retrouvée en atelier, vu que j'avais été voir ailleurs, dans d'autres disciplines.
D'autres expériences de vie.
Ouais, j'étais un petit peu loin. J'étais plus connectée complètement.
T'avais du recul aussi sur la pratique, j'imagine.
Ouais, ben, ça amène un œil différent, c'est ça. Oui. Parce que le commerce en ligne, moi, ça m'est venu. Tu sais, comment j'ai su que c'est ça que je voulais faire? Ben, c'était en travaillant pour d'autres artisans, parce que j'ai fait des stages avec d'autres artisans aussi, mais dans d'autres disciplines encore là. On parle de design de mode, puis on parle maroquinerie. Donc, c'était le fun, vraiment. Moi, j'ai vraiment adoré ces expériences-là, de voir comment d'autres artisans vivaient, comment la réalité d'atelier ressemblait à quoi pour eux. Puis c'est ça. Puis là, c'est là que j'ai découvert le commerce en ligne. Puis j'ai fait, ça me correspond vraiment comme manière de vendre. T'sais, je suis vraiment pas la personne la plus techno sur Terre, mais ça, je le voyais comme quelque chose qui me tentait. Puis j'ai pu travailler là-dessus sur le commerce en ligne dans justement d'autres expériences de travail. Donc, c'est clair que ça m'a servi après.
Fait que t'es arrivé à maturité aussi quand t'as décidé de partir dans le bel atelier qu'on a, qui est tellement super bien organisé et tout. Puis là, la question, je pense, avec laquelle j'ai envie de débuter, c'est vraiment pour beaucoup de gens. Peux-tu nous expliquer, c'est quoi la différence entre céramique puis poterie? Parce que je pense que les gens l'utilisent de façon interchangeable. Puis, c'est-tu juste ou c'est quoi la différence?
Ben en fait, c'est simple. La poterie, c'est la céramique qui est faite autour.
Sur un tour de potier.
Tout simplement. La céramique, On pourrait résumer ça en disant que c'est de l'argile qui a été cuite, mais à un point au-delà de 573 degrés Celsius, où est-ce que la transformation se fait, que l'argile devient céramique. Donc, au-delà de cette température-là, quand on met de l'eau dans une pièce qui a été cuite, au-delà de 573, elle va pas se défaire, elle va rester poreuse, c'est sûr, mais elle est devenue céramique. Mais c'est ça, de l'argile, par exemple, une pièce qui sèche, qu'on va verser de l'eau dedans, elle va se complètement désintégrer, là. Donc, l'argile, tant qu'elle n'est pas cuite, elle n'est pas céramique. Par contre, détail intéressant, en me replongeant dans mes... c'est ça, parce que tu sais que je fais un peu de recherche, évidemment, toujours. Un peu tout le temps.
Hey, t'as des super livres, là, tu sais, c'est comme des bibles sur la céramique, c'est tellement fascinant.
Oui, c'est fascinant, vraiment, moi j'adore ça. Puis de me mettre à jour dans mes connaissances, puis de creuser davantage, c'est qu'il y a une différence aussi entre l'argile que j'utilise. Je dis de l'argile, mais en fait, c'est une pâte céramique. Parce que c'est différentes matières premières qui sont combinées ensemble.
Okay.
Parce que de l'argile, en fait, on peut en trouver dans la nature, mais tu sais, ça vient d'une source, c'est pas utilisable vraiment pour faire tel qu'elle.
Alors, c'est exactement la source que j'utilisais quand j'étais petite. En arrière de chez nous, il y avait un ravin, puis il y avait de l'argile. Et je ramenais ça, puis je faisais des beaux cendriers, puis j'étais tout le temps tellement déçue quand c'était cuit, parce que c'était jamais luisant. Mais moi, je savais pas que ça prend un engobe, une glaçure, une cuisson. Fait que j'ai toujours été déçue.
Ben oui. Non, mais c'est ça, il y a une différence. Les pâtes céramiques, dans le fond, ce qu'on utilise ce que j'utilise, dans le fond, dans ma pratique, c'est justement différentes matières premières qui sont mélangées pour faire une matière, une argile qui soit relativement uniforme. Mais tu sais, on s'entend, tu sais, que ça risque, c'est fascinant de lire là-dessus sur la géologie. Puis rapport à la céramique, parce qu'on utilise vraiment des matières qui ont pris des millions d'années à se former.
Ben oui!
C'est incroyable. Moi, c'est mon cerveau explose.
Ben oui, puis imagine, toi, tu connais ça. En plus, t'es notre experte. Ce vers quoi on va aller, c'est justement de discuter de la résilience, parce que tu travailles avec une matière vivante. Puis déjà, pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'une des conversations les plus fascinantes qui m'a été donnée d'entendre dans ma vie, c'est ici dans ton atelier, avec deux collègues à toi, aussi céramistes. Puis là, vous êtes mis à parler des problématiques que vous pouviez rencontrer, des solutions que vous trouviez. Je ne comprenais absolument rien. J'avais l'impression d'être avec des alchimistes. Parce que les gens ont même pas idée à quel point il y a de la précision dans ça, dans les pourcentages de matière que tu ajoutes, de minéraux, la concentration d'un minéral, si tu le chauffes à tel degré, ça va faire une autre couleur. C'est tellement complexe, là.
C'est extraordinaire. Énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est complètement fou, tu sais, puis ça devait être ça, tu sais, on devait juste...
Probablement!
Il devait y avoir un problème technique qu'on essayait de comprendre pourquoi ça arrivait, c'est quoi les possibilités. Fait que, est-ce que t'as pensé à telle affaire? Est-ce que ça pourrait être telle affaire? Puis ce qui est vraiment le fun en céramique, moi, que j'apprécie beaucoup, c'est que les gens, justement, sont ouverts de partager leurs connaissances. Moi, j'adore partager.
C'est vraiment de la collaboration,
mais
hein?
Vraiment, puis moi, d'aider quelqu'un à résoudre son problème, ça fait vraiment plaisir, pour vrai. Sincèrement. Puis, il y a beaucoup de gens comme ça dans la communauté de céramique et grâce à l'Internet, on est capable de se parler, par exemple, dans des groupes Facebook.
Uh-huh.
Ça arrive qu'il y a des semaines que je vois pas grand monde non plus, tu sais.
Puis tout le monde a une pratique complètement différente.
Exactement.
Fait que chaque céramiste va vivre une difficulté différente. Fait que c'est pas parce que tu as trouvé ta recette pour ta glaçure que ça va systématiquement tout le temps sortir pareil. C'est ça, ça dépend.
Absolument.
La complexité,
il y a tellement
ça dépend
de facteurs différents. Il y a...
Par exemple,
moi, l'argile que j'utilise, des fois, c'est ça, c'est le problème que j'ai avec cette argile-là, il y a des petites impuretés. Okay. Ça va faire des petites taches si je les enlève pas. Fait qu'il faut que je fasse attention. Parce que c'est ça, l'affaire, c'est que ça peut pas être parfait.
Non,
c'est ça,
non.
C'est fou parce que, tu sais, ça vient de matières premières qui viennent de mines, beaucoup en provenance des États-Unis. Ça vient du sol, tu sais, à un moment donné.
C'est de la nature.
Ben, essayer d'épurer, mais tu sais, ça reste que, ben, tu sais, c'est ça, de faire du blanc. En plus, des fois, c'est ça, je te dis, je sais pas pourquoi je m'obstine à ce point-là. à faire des pièces qui sont blanches, immaculées pratiquement. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est un gros défi.
C'est ce qu'il y a plus tôt,
là. Vraiment. Je m'en rendais pas compte quand j'ai commencé là-dedans parce que moi, ça m'appelait juste, tu sais, c'était juste naturel de vouloir faire ça. Mais finalement, c'est vraiment plus difficile que ça en a l'air. Puis je m'en suis rendu compte en le faisant parce que il y a toujours la chance du débutant quand même.
Ouais.
Ah, tu y vas, puis tu sais, surtout en commençant, beaucoup de céramistes en partant, pareil.
Oui, oui, oui.
Je mesurais pas grand-chose avant dans le sens, tu sais, comme il y a la densité de ta glaçure quand tu l'appliques, par exemple.
C'est tout ça qu'on sait pas, nous, quand on achète. C'est la complexité de chaque étape.
Mais tu peux pas y aller à l'œil.
Non,
c'est ça l'affaire. C'est bien beau. Mais oui, il y a des céramistes qui vont dire, oui, ben moi, je le vois, cette consistance-là. Moi, je suis rendue vraiment plus, de plus en plus, méthodique,
ouais.
Je mesure, calcule. Je me suis mis à prendre des notes dans les dernières années, mais vraiment,
c'est vrai, t'as ton carnet,
vraiment
ouais.
Beaucoup plus parce que je me suis rendu compte que je peux pas me fier à ma mémoire. Il y a trop de choses.
Il y a des variables, il y a trop de variables.
Exactement, c'est un bon mot, variable.
C'est
parce
ça,
que,
hein?
C'est ça, parce que c'est sûr que même si on peut avoir des produits de matière première qui sont relativement uniformes, il y a quand même toujours des petites variables. Puis tu sais, la céramique, la pâte en soi, ben bon, essayer toujours de... Tu sais, tu veux toujours faire, mettons, une pièce qui soit ronde, symétrique, mais c'est mou, hein? Ça va tordre, peut-être en cours de route, juste dans la manipulation. Faut faire très attention.
Puis même la chaleur ambiante. Fait que quand il fait 40 l'été, là, t'as pas la même réaction par rapport si c'est humide ou sec, si c'est...
Non, le taux d'humidité est effectivement super important.
Affecte.
Oui, absolument. Oui, la chaleur peut avoir un effet aussi. Ouais, le je suis rentrée avec des baromètres, d'ailleurs, dans mon atelier.
Oui, c'est pas pour rien.
Parce que justement, tu sais, des fois, tu rencontres des problèmes, tu sais pas pourquoi, mais tu sais, si tu mesures rien, jamais...
Tu sauras jamais.
Ça va être dur de cibler.
Je pense que c'est plus de la science que de l'art au final, puis c'est ça que les gens suspectent pas. Puis j'ai envie que tu nous amènes sur les étapes. Tu pèses,
oui.
Tu sais exactement la quantité que ça va prendre pour chacune des pièces, puis les gens iront voir ton catalogue, là, il y en a, que ce soit de l'assiette, que ce soit de la tasse, que ce soit du gobelet, que ce soit des pots de sirop d'érable. Tu sais exactement, tu tailles ton argile, tu sous-pèses, puis c'est ça que tu vas tourner autour.
Exact. Le prototypage embarque un peu là-dedans, parce que quand je prototype, c'est là que je vais... Souvent, je commence avec un dessin, tu mettons un croquis à main levée, pas à l'échelle, rien. Après ça, moi, c'est pas long que je vais tomber avec le papier quadrillé pour voir mes proportions. Les proportions, c'est essentiel. C'est là que
ça commence bien avant ton argile. J'ai complètement zappé ça.
Fait que, donc, le papier quadrillé pour me donner une idée, parce que je suis très, j'aime ça travailler à la main. Puis, donc, c'est ça. Donc, je vais faire ma forme, puis avoir une idée des dimensions que je veux, puis tout ça. Puis, surtout, les proportions, que je trouve super important. À partir de là, je vais évaluer. Bon, je pense que j'aurais besoin d'à peu près tant d'argile pour faire ça. Fait que là, ben, je vais peser mon argile. Donc, bien sûr, pour toujours avoir la même quantité. Ultimement, c'est ça en production, c'est que je vais répéter quand je vais retrouver ma bonne quantité d'argile parfaite, que, ben, ça peut s'ajuster avec le temps parce que, bon, le tournage peut s'améliorer.
Mais il reste que c'est tourné à la main. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent, là. C'est pas genre un prototype que t'as tourné à la main, puis je sais pas, là, des fils la nuit font tout le reste. Chaque pièce que vous tenez dans vos mains a été tournée par Cindy.
Oui, puis les, ben en fait, les seules exceptions, c'est mes bouteilles, les pots à sirop, les
billets,
dans le fond, c'est des types de pièces-là. Que ça, je fais le prototype à la main, autour. Puis après ça, je fais faire des moules de production pour être capable de répéter la forme facilement. C'est très haut.
Puis c'est une autre technique, parce que là, c'est avec du coulage.
Oui, hein? Je le dis, parce que le coulage, tu sais, je veux dire, tu sais, le tournage autour de ça, on le voit bien, c'est fait à la main, mais le moulage, c'est pas vrai que c'est facile. Tu sais, ah ben oui, c'est facile, juste à faire des moules, tu remplis, puis c'est pas juste...
Comme des lapins de chocolat, là, tu sais, on s'imagine à Pâques, là.
C'est
un peu ça, en fait, le moule, c'est ça.
C'est ça, du moulage aussi, là.
Oui, oui.
Mais c'est juste que, bon, t'as toutes les variables s'appliquent aussi les différentes barbotines de coulage, parce que c'est comme ça qu'on appelle une argile pour couler. Ben, ils ont différentes propriétés. Moi, j'ai changé récemment parce que j'avais des problèmes techniques avec une. J'ai changé pour une autre barbotine, puis là, je me suis rendu compte comme, il faut que je fasse attention parce que on dirait qu'elle sèche plus vite.
Ah!
Puis là, on dirait que ça a envie de faire craquer. C'est vraiment pas...
C'est tellement complexe!
Si facile. C'est ça. Peu importe la technique, il y a des défis propres à chaque technique.
Parce que la matière est vivante. On revient tout le temps un peu à ça, au final.
Ben oui. Je serais curieuse de voir une, tu sais, sa fourmille de bactéries.
Oui, là, c'est sûr.
Puis, tu sais, c'est des bactéries qui sont nécessaires pour garder une plasticité. Tu sais, je veux dire, l'argile, tu sais, c'est humide. Donc, il faut que ça garde son humidité. Le vieillissement fait en sorte que, justement, il se développe. J'ai pas les mots. J'ai vraiment pas une bonne mémoire, là. Mais l'argile va être plus malléable, plus plastique, en fait. Donc, en la laissant vieillir. Quand on parle de matière première qu'on va mélanger, ou même moi, l'argile, quand je la recycle, ça, c'est une autre chose. Toutes les petites rognures de quand je fais ma finition, je les garde. L'eau que j'utilise quand je tourne, je vais mettre tout ça dans une chaudière ensemble. Après ça, mélange ça un peu, laisse décanter, enlève l'excédent d'eau s'il y a, mais souvent, je vais le récupérer pour continuer ma récupération. Wow. Mets ça sur des plates. Repétris ça, mais j'ai une boudineuse pour m'aider là, dans cette job-là.
Fait que la boudineuse, elle te sert à prendre. Fait que, tu sais, bon, toute ta journée, tu as tourné des pièces. Puis, dans un tour, en fait, là, pour les gens qui ne connaissent pas, puis je mettrai des images, mais c'est que tu as le centre qui tourne, qui est une plaque qui tourne.
Oui, c'est la girelle, c'est là-dessus qu'on tourne.
Puis, à un moment donné, dans tes étapes, la pièce, évidemment, il faut lui faire un pied, il faut des fois couper au niveau, tu sais, de la lèvre, oui, du verre, puis tout ça. Mais ça, c'est des résidus, si on veut, des rognures, comme tu dis, mais tu les jettes pas.
Non.
Fait que tu vas les réutiliser. Fait que tu as toujours un cycle,
oui,
de réutilisation de ta matière première.
Oui, j'adore ça.
Oui.
Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'adore...
C'est comme super, comment dirait-on... vert
ou... il y a vraiment quelque chose d'écologique. En fait, oui, ça, dès, tant que c'est pas cuit, la céramique, tu peux toujours recycler ton argile, reconditionner. Wow. Tu sais, ton argile...
Même si elle sèche.
Elle peut être complètement sèche, ça défend petits morceaux, on laisse ça reposer dans l'eau, tu repars le cycle, justement. Tu
puis ta boudineuse, elle te permet, dans, une fois que tu as fait décanter des rognures dans l'eau, oui, tout ça... Blah, blah,
blah. On les met sur les plates pour enlever l'excédent d'humidité.
Exact.
Puis là, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à une pâte déjà. Puis en fait, la boudineuse, c'est un malaxeur.
Ah, oh, OK.
Ça vient mélanger, puis enlever l'air aussi à la fin de l'argile. Donc, ça vient vraiment réuniformiser toute la pâte. Puis après ça, on peut retourner des pièces avec ça. C'est merveilleux.
C'est merveilleux. Fait que là, tu as tourné un verre... Puis là, tu fais quoi? Il faut qu'il sèche un peu. Il faut que ton argile...
Il faut qu'il durcisse.
Il faut qu'il durcisse.
Pas qu'il sèche. Complètement. C'est ça, il y a comme...
C'est pour ça que tu mets des plastiques sur tes...
Oui, c'est ça. J'utilise des petits plastiques style... nettoyeur, ça ressemble à un sac en plastique.
C'est vrai,
en
fait, c'est vrai.
C'est pour que ça garde l'humidité. Parce que si on laisse une pièce qu'on vient faire autour, donc on a pris de l'argile, on a rajouté de l'eau, donc on l'a beaucoup, on l'a ramolli, on l'a réhumidifié en la façonnant autour.
Mm-hmm.
Après ça, si on la laisse à l'air libre, elle va sécher au complet. Mais on veut pas ça parce que dans le fond, quand on enlève la pièce du tour, c'est que le bas, ben, ça va devenir notre pied. Puis si on veut qu'il soit beau, ben, il faut y faire une petite finition. Puis,
Tu peux pas si c'est sec.
Exact. Mm. Parce que là, je serais plus capable d'intervenir si c'est complètement sec. Donc, on laisse durcir un peu. Puis, justement, ça se raffermit, en fait, l'argile quand ça durcit. Donc, il arrive une consistance, on appelle ça la consistance cuir. C'est que, justement, on est capable de graver puis de faire des ajouts à ce moment-là, comme une anse, par exemple. Mais pour une pièce qui est faite autour, quand ça raffermit, on peut la tourner à l'envers sur la lèvre parce que, justement, ça bouge plus à ce moment-là. Mm. La pièce est ferme. Puis, on vient enlever l'excédent au niveau du pied pour faire...
Que ce soit droit puis stable. Mais là, après, tu la cuis.
Oui, là, on laisse sécher avant de cuire. Par contre, c'est super important de laisser partir l'humidité.
Okay.
Parce que sinon, c'est ça, si on prenait une pièce qui n'est pas complètement sèche, puis on la mettrait dans le four, des chances d'explosion.
OK. Non, mais écoute, c'est extraordinaire.
L'humidité, c'est pas... il faut vraiment que ça soit sec quand ça va dans le four. Puis on peut préchauffer aussi là pour aider à finir le séchage.
Fait que là, c'est quand même plusieurs heures de cuisson
pour une
première cuisson. Puis là, quand c'est prêt, t'es sort, tu fais quoi? Là, c'est pas prêt. Tu sais, je veux dire, tu peux pas boire dedans, là. C'est juste cuit une
fois.
Non, effectivement. C'est biscuité.
Oh,
je suis rendue bonne!
C'est biscuité, c'est la cuisson dégourdie. Au biscuit, je pense que ça vient de l'anglais,
okay,
le bisque.
Ah oui, OK.
C'est ça, une première cuisson. Autour, ça peut être c'est entre 900 et 1000. Moi, je suis plus autour de 1060 degrés Celsius pour la première cuisson. Donc, ça permet que la pièce, bon, est devenue céramique parce que là, on peut y ajouter le décor qu'on veut.
Dans ton cas, c'est des transferts d'image.
Ben, en fait, c'est pas à ce moment-là.
Non, c'est vrai.
C'est ça. Il y a une étape d'autre. poudre avant. C'est les mariages, en fait. Donc, c'est la glaçure, tu sais, c'est mes matières premières en poudre que j'ai mis dans le
pot. Ouais.
Suivant une recette que j'ai, c'est ça, que j'ai travaillé avec le temps pour avoir justement du noir satiné, du noir lustré, du blanc satiné, du blanc lustré. C'est des recettes différentes, en fait. En fait, je pourrais presque dire que c'est pas mal la même recette avec des variantes qui me permettent d'avoir ces différents.
Mais chaque céramiste va avoir sa recette.
Absolument. Ben ça ou
en fait, recette. Oui, ses recettes. Mmh. Parce que selon la collection, la couleur que tu veux faire, le fini...
Oui, c'est ça, exactement.
Ça va changer. Mmh. Fait que là, moi, j'ai eu le plaisir d'essayer ça, c'est super le fun. Fait que là, tu prends ta pièce qui a été biscuitée, donc qui a été cuite une fois.
Exact.
Puis c'est à ce moment-là que tu la mets dans des pinces, puis là que tu la plonges dans la glaçure, qui est comme une espèce de chocolat mou, ou un chocolat chaud très épais, là. Tu sais, c'est quand même une belle consistance.
C'est crème,
oui.
Puis c'est ça encore là, ça dépend, tu sais, genre, ça peut être plus lait que crème, ça dépend des glaçures,
bien sûr.
Tout ça. Mais ouais, en gros, ça ressemble pas mal à ça. Il y a un peu de préparation avant
vrai.
Le trempage. Soit du nettoyage, puis de moi, c'est là que je mets ma signature aussi. Je vais mettre un peu de cire sur le pied pour pas que la pièce colle dans le four, parce que là, l'émail, ça devient... C'est comme du verre en fusion, en fait,
quand
c'est cuit. Fait que s'il y en a sur mon pied, ça va coller sur ma tablette de four. Puis, ben si on veut pas ça, évidemment. Donc, ça, c'est un petit peu de préparation avant l'émaillage. Puis, la pince, en fait, moi, je l'utilise parce que je trouve ça pratique. C'est la manière la plus simple pour moi. Là, c'est l'émaillage par trempage, donc je trempe ma pièce quelques secondes, je la ressors. Puis c'est ça, j'utilise une pince que les céramistes connaissent, là, mais je ne saurais pas comment décrire. Là, c'est juste un outil, en fait, qui permet de tremper sans se rentrer le bras au complet dedans. Puis en faisant un minimum de contact avec la pièce pour pas que ça fasse de trace.
Parce qu'il faut que tu en aies partout. Tu sais, partout où il y aura un point d'appui, ben il n'y aura pas de glaçure. Fait que là, on veut pas ça non plus. Fait qu'il faut qu'il y ait de la glaçure partout.
Exact. Puis comme je fais des pièces qui sont unies...
Ouais, c'est vrai.
Ben c'est ça. Idéalement, je veux de la glaçure partout égale.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça. Donc, c'est ma technique.
C'est un art. Juste la gestuelle de trempage.
Je me suis rendu compte dans la dernière année à quel point... Parce que c'est quelque chose que je déléguais beaucoup avant. T'sais, j'ai été des... je maillais pas beaucoup. Je déléguais beaucoup pendant une certaine période. Puis en le refaisant dans la dernière année, justement, que j'ai comme un petit peu ralenti, puis je me suis remis à émailler, je me suis rendu compte à quel point c'est... Je le faisais, puis j'étais comme, ah ouais, OK, je
rentre comme ça. Il y a comme quelque chose de chorégraphique, parce qu'il y a un timing. Tu peux pas la plonger trop longtemps. Faut que tu la sortes pour qu'elle se libère d'une certaine quantité de glaçure, mais pas trop.
Exact, pas la secouer trop.
Non.
Pas la sortir, c'est ça, il y a comme une vitesse.
Il y a un balai, il y a comme un balai dans le glaçage.
C'est une belle image, effectivement, parce qu'on dirait que je l'avais comme un peu oublié en faisant pas beaucoup, justement, mais là, en le refaisant. Puis c'était aussi dans le but de corriger des petits, toujours peaufiner mes recettes pour améliorer, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut améliorer, évidemment. Ou des petits problèmes à régler, puis c'est ça. Donc, en étant plus là dans toutes les étapes, je me suis rendu compte que ma technique, justement, j'ai comme, ah oui, OK, puis là, quand je sors, si je tourne un petit peu, bien là, la goutte...
C'est vraiment dans le geste, c'est fou, là, c'est dans le geste.
Puis c'est ça, puis c'est vrai que je voyais plus à quel point c'était important, tu sais, comme que c'était subtil.
Tellement subtil. Mais là, une fois que tu as fait ta pièce puis que tu les as passées à la glaçure, faut que tu les recuises.
Oui, deuxième cuisson, c'est la cuisson émail. Puis moi, je cuis environ dans les cônes 5-6.
Les cônes, my God! Parlons des cônes.
Hey, parenthèse. Avec une super image, finalement, parce que j'essayais d'expliquer à quelqu'un c'était quoi, comment mesurer la température dans un four à céramique.
Ben oui!
Parce que, bon, mes fours, moi, sont électriques et électroniques. Donc, la température est prise par des thermocouples dans le four. Donc, c'est comme des thermomètres, mais pour aller dans un four. Donc, mon contrôleur me dit, le thermocouple 1 est à telle température. Donc, il me dit les températures. Cependant, dans un four, c'est un peu comme dans la vie, comme l'été, par exemple, il y a du ressenti, hein? Mm. Tu sais, genre, le facteur humidex, tu vas ressentir un 32 degrés, mais en réalité, il en fait 24. Ben, mes thermocouples, ils vont comme un thermomètre va percevoir comme 24.
Mais c'est pas la chaleur ambiante du fond.
Ça se peut qu'il fasse 32, tu sais, comme, ben là, en plus grosse échelle, on
s'entend. Oui, mais l'image est bonne.
Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, fait que mes comptes, dans le fond, c'est des comptes pyrométriques que j'en mets toujours une série dans chaque cuisson que je fais pour être sûre et certaine d'avoir la bonne température, parce que d'une température d'un cône à l'autre, l'intervalle peut être de peut-être 20-40 degrés, ça dépend là, tu sais, de
mais
de
ça peut avoir un gros impact.
Ça peut avoir un impact énorme.
Il faut
ça
comprendre que le four, puis je mettrai des liens là pour imager la patente, mais un four à céramique, c'est comme ça que tu appelles ça. En fait, c'est étagé, ce qui fait que t'as pas nécessairement la même température selon l'endroit où tu es placé dans le four. Fait que c'est pour ça que toi, il faut que tu t'assures qu'il y a une uniformité.
Exactement.
Dans la chaleur, que ce soit réparti pour que toutes les pièces cuisent de la même façon, de la même durée, j'imagine. Puis les cônes, c'est vraiment... C'est-tu des cônes de céramique? C'est
oui,
fait en quoi?
En fait, oui, c'est okay. fait en... Ben, c'est un mélange de pâte qui va fondre à une température précise.
Puis tu les vois vraiment penchés, là. Fait que là, selon le degré, selon le type de cône que tu utilises, puis le degré...
Il n'y a pas de type de cône en penchant. Okay, c'est une échelle qui est standard.
OK.
Une échelle standard en Amérique du Nord et en Europe, ils ont une échelle qui est légèrement différente.
Ah ouais?
Ouais, c'est ça. Les cônes sont pas tout à fait les mêmes températures en Europe puis ici. Mais ouais, c'est ça.
Rajoutons des variables, my God!
Mais oui, c'est ça. Donc, c'est ça, les cônes permettent de vraiment vérifier la température « ressentie », entre guillemets.
Fait comment ils se comportent, comment ils penchent, va t'indiquer...
La température exacte. Bien, puis en fait, juste pour dire, c'est fréquent là, que ça arrive, moi, mon four, mes thermocoupes me disaient que j'avais atteint, disons, le cône 6, mais selon mes cônes, en fait, c'est un cône 7 qui était atteint. Donc, comme quoi, ça vaut vraiment la peine.
Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a un impact majeur sur toutes les pièces.
Un cône, en fait, c'est ça. Une glaçure peut se comporter vraiment différemment. Ben, en fait, ça dépend des glaçures. Il y a des glaçures qui sont très sensibles à une différence de, justement, 20-40 degrés. Tu peux passer du mât au lustré, là.
Puis là, c'est la même matière que tu as enduit tes pièces, là, avec laquelle tu as enduit tes pièces, là.
Exactement.
Fait que là, on a fait une deuxième cuisson.
Exact.
Tu les sors. Elles seraient prêtes à être utilisées à ce moment-là?
Oui, absolument. C'est les pièces qui sont considérées comme finies. Moi, je considère mes pièces comme finies à ce moment-là.
OK.
Donc, le décalque, c'est un bonus.
Voilà! Fait que toi, t'as une troisième cuisson parce que le décalque, donc on parlait des animaux. Parle-nous-en de ta collection, tiens.
Oui, la collection, c'est les animaux de chez nous. Mais j'ai aussi la collection vintage, en fait.
Oui, c'est vrai.
C'est ça, ça fait quelques années que j'ai commencé ces collections-là. C'est des dessins que j'ai faits. Mm-hmm. Comment ça fonctionne? C'est que, bon, moi, je fais mon dessin sur papier, puis je vais le scanner, puis le nettoyer légèrement. J'y vais vraiment à l'encre le plus plus de contraste.
C'est ça, tu les dessines pas, là, juste pour être... Tu les dessines à l'encre, là, sur du papier avec de l'encre.
Oui, format 8-10, en général. Ouais. Là, c'est à peu près comme ça, mes dessins, au départ.
C'est pas l'ordinateur, c'est ça, l'idée?
Non, c'est ça. Moi, l'ordinateur, c'est le moins possible.
Pour la création.
Bon, ouais, c'est ça. Côté création, c'est vraiment minimal. Côté gestion, c'est une autre histoire. Puis, c'est ça, les dessins, après ça, je les scan, je vais les nettoyer un petit peu, justement, comme Photoshop. Puis après ça, là, je vais les redimensionner, les dimensions que je veux voir sur mes pièces. Fait que j'ai différents formats de décalque qui vont avec les différents formats de pièces. Moi, je l'ai fait faire, mes décalques, parce que c'est un procédé qui demande quand même certains équipements, puis tout ça, puis je suis pas...
Puis des types d'angles, puis de... Ouais, c'est ça, là. En fait, pour l'illustrer, on dirait des tatous temporaires.
Oui, exactement.
C'est un peu ça, en fait.
En gros, c'est de la sérigraphie, en fait. Les décalques sont faites par sérigraphie, mais c'est sur un papier transfert, puis avec une encre qui est faite pour être cuite, mais avec une pellicule transparente par-dessus qui permet de prendre l'image, de la déposer dans l'eau, puis qu'elle va se détacher tranquillement du papier. Puis après ça, on peut la manipuler délicatement puis venir l'appliquer sur la pièce.
Puis là, c'est quand même magique. Tu la remets en cuisson, la pellicule fond en fait, puis l'encre de l'image se dépose puis vient se fusionner à ta pièce qui était finie, mais sans se déformer. Tu sais, c'est quand même extraordinaire.
C'est
fascinant.
C'est un procédé qui est quand même un procédé qui est lié à l'industrie. Mm-hmm. Comme qui vient l'industrie, parce que c'est vraiment adapté pour de la production en série, puis tu sais, c'est toujours la même chose. Le décalque, tu sais, il est pas fait à la main, là, tu sais, il est produit après ça en impression, tout le temps la même chose. Tu sais, le stress est moins c'est un coup que c'est
mais ça. En fait, c'est intéressant parce que il y a tout le temps une espèce de tension puis d'équilibre à aller chercher entre la mouvance, donc ta matière est changeante, on a parlé, il y a comme une résilience à avoir, puis d'atteindre une uniformité parce que le produit que tu vends, bien, il est identifiable. Il faut que d'une pièce à l'autre, si tu vends une série de quatre verres avec, on va dire, le petit renard dessus, mais il faut qu'ils se ressemblent, là, les quatre verres.
Quand même.
Fait que, tu sais, c'est comme une tension entre...
Puis en même temps, ça va toujours être un petit peu différent.
Ben oui,
justement,
c'est
parce
sûr.
Que je l'ai fait.
C'est pas une machine,
fait que c'est ça. C'est pas, tu sais, c'est moi, c'est mes mains. Puis, tu sais, c'est ça, d'une journée à l'autre, c'est fou, là, tu sais, c'est ça, on en rajoute des variables.
C'est incroyable comme complexité.
Fait que c'est ça, c'est carrément, tu sais, c'est l'antithèse, c'est l'artisanal, c'est pas fait à la machine, tu sais, puis, tu sais, quand tu magasines une pièce qui est faite à la main, justement, qui va faire en sorte que tu regardes toutes les pièces, puis t'es comme, ah ouais, elle est un petit peu différente. Moi, je suis de même, là, je vais spotter celle-là qui est une petite affaire comme différente des autres. Tu sais, j'aime ça faire des affaires qui, tu sais, on dirait que je vise tout le temps de faire des trucs qui soient le plus identique, entre guillemets, possible, mais que c'est juste en fait impossible qu'il soit identique.
Ben non, c'est ça.
Puis finalement, tout ce que je veux, c'est comme quelque chose qui soit un petit peu différent.
C'est paradoxal. C'est trippant. L'autre chose dont je voulais parler, c'était tes labs. C'est fascinant. Alors, mettons, là, tu as un projet en tête, puis tu veux travailler une nouvelle couleur de glaçure. En fait, là, imaginez-vous que c'est des gâteaux. Là. Moi, je pense que ça va être la façon de l'expliquer. Tu as ta recette de gâteau et ta recette de glaçage. Tu sais, ça sera pas
oui.
les...
Bon, ah oui.
N'est-ce pas?
Ah oui,
n'est-ce pas?
Parce
que j'essaie de faire... Tu sais, d'imaginer ça. Et là, toi, tu vas te faire des labs. C'est pour ça que je trouve que c'est le meilleur exemple de prototypage. C'est la céramique. Parce que moi, tu me les montres, je trouve ça fascinant. Fait que tu vas te cuire des petites pièces plates, mais des petits échantillons, en fait.
Oui,
là.
Des tessons, en
des
fait.
Des petits, tessons.
Oui, des petits morceaux de céramique. Ça peut avoir différentes formes. Tu sais, ça peut être... Moi, j'ai choisi de faire des pastilles plates. Je pense que ça se range mieux, puis je trouve ça beau.
Oui, c'est ça, voilà. T'as du plaisir. Parfait. Puis là, ben, tu vas venir te faire... Puis on pourra aussi mettre ça dans les notes d'épisode. Mais tu vas venir faire des tests. Donc, une série de tessons avec chacune enduite d'une glaçure que tu vas avoir élaborée. Mais pour chacun, il va avoir une petite différence. Puis là, toi, tu notes tout ça, je vous dis, c'est de l'alchimie, dans un petit carnet. Puis là, tu te dis, bon, ben, ah, il y a un petit peu plus de zinc, ça fait, je dis n'importe quoi, moucheté ou bien tant de pourcentage, 12 % de moins, 5 % de moins, ça change, là.
Absolument.
Puis on voit tout. En fait, c'est des... ça fait devient comme des nuanciers.
Oui. Exactement.
De couleurs, mais faites sur des tessons de céramique. Puis c'est là que, en faisant plusieurs, là, tu sais, c'est élaboré, là. Toi, après, tu vas pouvoir déterminer, ben, tu vois, si j'utilise cette composition-là, ça va me donner telle couleur avec tel fini, parce que selon combien de temps ou le degré avec lequel tu le fais cuire ou le fais refroidir, ça, attention à l'autre variable.
Ah ouais, c'est ça.
Le fini va être ou bien plus mat, plus lustré. Puis c'est tes labs qui te permet après de dire, bon, ben ça, c'est ma recette. C'est tant de pourcentage de X, Y, Z. Puis c'est avec ça que je vais faire ma prochaine collection, mettons.
Exact. Sauf que l'affaire, c'est qu'il y a souvent, il y en a pas juste un lab, il y en a vraiment.
Mais c'est
puis
ça!
C'est interminable. Mais en fait, je trouve ça fascinant justement parce que, hey, mon Dieu.
Dis-nous un exemple de lab que tu as déjà fait pour illustrer un peu le processus.
OK. Il y a eu un projet que j'ai travaillé, en fait, c'était un projet pour un restaurant. Je suis partie à partir d'un lab, en fait, que j'avais fait avec ma collègue qui m'a aidée. J'ai fait une déclinaison d'utilisation dans une même base de glaçure de différents oxydes. Donc, par exemple, du cuivre, du fer, du cobalt. Donc, tout ça, ça donne des couleurs différentes et potentiellement des textures différentes.
Okay.
Puis, des fois aussi, des effets différents.
Aha.
Puis, c'était un lab qu'on appelle 50-50. Donc, on vient mélanger chaque matière à 50% de chaque ensemble. Tu sais, 50%, disons, de 5%. Donc, c'est ça, c'est un lab qui est le fun parce que tu as vraiment un éventail très large de ce que tu peux avoir comme couleur avec une base de glaçure X. Donc, on avait fait ça, puis j'avais vu un résultat que je trouvais tellement intéressant dans ce lab-là. T'as un espèce de beau petit beige moucheté avec l'effet, il est un peu satiné. Puis Puis c'était de l'oxyde de fer qu'on avait pris pour ça, je me rappelle plus du pourcentage exact, et du rutil. Ce que je savais pas, en fait, parce que là, je présente ça au restaurant, je leur dis, regardez, c'est vraiment large ce qu'on peut obtenir, puis ça, c'est juste un début. Hein. Puis finalement, il accroche sur le même beige que moi. Fait que là, je suis comme, OK, super. Fait que moi, je prends ça, je me dis, bon, ça, c'est 30% de fer, 30% de rutil. Essaye de reproduire ça maintenant. Je refais une batch un petit peu plus grosse, tu sais, disons, je suis allée avec un 100 grammes ou j'ai peut-être fait un 1000 grammes pour avoir un petit peu plus de, tu sais, une petite batch pour faire des tests. Et impossible de reproduire. J'ai jamais été capable de reproduire.
Puis pourquoi tu penses?
Et, ben, premièrement, c'était la composition la plus flyée qui donne le plus...
De variables
possibles. Fer et rutil ensemble, c'est comme bonjour que ça... C'est incroyable.
C'est
incroyable.
Instable, dans le fond. Il y a comme l'instabilité des mélanges.
Tellement, ces matières-là sont vraiment... s'influencent entre elles, puis ça les rend hyper sensibles à tous les petits changements. Par exemple, si j'avais cuit une fois dans un four, une pièce... dans un four que le refroidissement était pas contrôlé. Il y avait pas eu de nappage, ce qu'on appelle, c'est qu'on maintient la température de cuisson à la fin pour une durée X.
OK.
Puis, il y en avait pas eu. Tu sais, c'est comme la fin de la cuisson, bang, ça refroidit. Ça m'avait donné une espèce de jaune maïs.
OK.
Je trouvais ça tellement laid. Moi, j'étais comme, mais c'est pas ça du tout que c'est ça. Je suis comme, bon, ben moi, d'habitude, je mets un nappage de, par exemple, 10-15 minutes. Déjà là, c'était mieux.
Puis là, mais c'était pas changé ta matière.
Non,
t'as
c'est la même
changé
chose. C'est la même.
Comment
même...
tu cuis ou décuis ou refroidis. Pas décuis, mais comment tu refroidis ta pièce, si tu le fais ou pas.
Exact. Puis là, le four, comment c'est ça, justement, comme à quel point il est rempli, aussi ça a un impact, tout ça. Puis cette même glaçure-là qui m'avait donné le beau petit beige un petit peu satiné, avec moucheté, avec de l'effet, ben finalement, ils m'ont même donné des affaires qui avaient comme des reflets bleus. C'était comme du beige avec des reflets bleus. Mais tu sais, quand c'est pas ça que tu veux.
Non, non. Puis là, faut comprendre que c'est pas genre des fils sur Photoshop que tu fais juste changer, là.
Ah ben non.
C'est ça. Tu refais tes mesures, tu refais une autre glaçure, tu le testes, tu
ben
cuis, t'attends. Tu sais, c'est un long processus.
Ben c'est ça, j'ai essayé tellement de choses. Puis effectivement, à chaque fois, tu veux le mettre dans un four, tu vas pas cuire juste ta petite pièce dans un four tout seul. Ça sera pas représentatif non plus. Puis tout dépendamment du four que tu utilises aussi, si tu utilises un tout petit four qui va monter super vite puis qui va descendre super vite de température, t'auras pas nécessairement le même résultat.
Fait que dans un four, habituellement, mettons qu'on parle d'une tasse. Tu vas en cuire combien ensemble dans ton four?
Entre 60 et 100.
Quand même, c'est ça. Là, fait que c'est pas genre
plusieurs dizaines. Là,
tu fais pas cuire pièce par pièce
non plus.
Ça, juste pour se l'imaginer. Là.
Okay. Ouais, donc, c'est ça, c'est plusieurs dizaines de pièces, genre jusqu'à une centaine de pièces dans un four en même temps. Fait que, tout ça pour dire que pour le laboratoire, que j'avais commencé avec un laboratoire, le 50-50, pour finalement décider de vouloir répliquer une chose, puis finalement, ça n'a pas marché du tout. Mais j'ai refait des lames, après ça, pour être capable, parce que là, j'étais comme, mais je comprends pas pourquoi...
Ça doit agacer de
ben,
pas trouver...
Ben, surtout que quand t'as en plus que je m'étais déjà commis avec un client à dire, ben oui, tu vas vous faire ça, il n'y a pas de problème. Oh mon Dieu! Mais c'est ça, hein? C'était mon premier contrat de restaurant.
Ah ouais, c'est ça!
C'est comme ça, ça a été quelque chose, un gros apprentissage, mais vrai. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'à chaque fois, on apprend beaucoup. Mais j'étais repartie de ces résultats-là, puis là, je me suis dit, bon, OK, le rutil, c'est qu'il y a du dioxyde de titane dedans et du fer, justement. Puis c'est ça, donc je vais peut-être essayer, en rajoutant du dioxyde de titane, peut-être que ça pourrait stabiliser. Puis j'étais arrivée quand même à des résultats intéressants. J'avais été capable comme ça de modifier.
De te rapprocher de ce que tu voulais, mais c'était quand même pas exactement ce que tu voulais.
Ben non, puis ça, je veux dire, ça l'a jamais été. Là, j'ai jamais réussi à répliquer exactement le résultat. Mais tu sais, bon, c'est ça, à un moment donné, on apprend, puis on se lance pas dans des affaires folles, comme mélanger du fer et du rutil, en espérant avoir quelque chose qui ressemble tout le temps.
De stable.
Mais tu sais, bon, c'est ça. Chaque lab, dans le fond, c'est que j'aurais pu décider... ça, c'est un exemple un peu extrême. Là, disons que j'essaie aller un petit peu un petit peu plus safe, c'est ça, puis c'est de partir, tu sais, mettons que j'ai une base de glaçure, je vais essayer avec un oxyde. Moi, c'est des petits labs que j'aime faire qui se font vite, c'est des progressions linéaires, qu'on appelle. Donc, là, je vais partir de ma base de glaçure que j'ai déjà, parce que je sais qu'elle fonctionne bien avec mon argile, j'ai pas de problème majeur.
C'est comme une base neutre, de laquelle avec laquelle tu peux t'amuser.
C'est ça, parce que ça aussi, c'est une autre chose. C'est que tu changes de base, ben là, tu es dans un autre monde complètement. Mmh. Puis, tu sais, ça peut peut-être...
Tu recommences à zéro.
Oui.
Tu explores à travers... C'est tous des petits mondes dans les...
Oui, oui, c'est ça. Fait quand tu trouves une recette qui fonctionne, tu essaies de... C'est ça, de rester avec. Puis c'est ce que j'ai fait, moi, dans le fond. C'est que j'avais différentes recettes. Puis finalement, c'est ça, mes noirs, ils ont changé. Tu sais, dans le fini, j'essaie toujours que ça se ressemble, mais la recette a quand même changé quelques fois pour être capable d'avoir quelque chose qui soit le plus constant, uniforme possible d'une pièce à l'autre, puis qui ait le meilleur fit possible avec la pièce. Donc, qui ait le moins de défauts possible. Puis là, c'est ça, là, je suis vraiment contente d'où est-ce que je suis rendue. Et je travaille encore dessus. C'est toujours un...
C'est ça, c'est jamais gagné.
C'est un work in progress.
C'est ça.
Là, tu sais, rendu au point où est-ce que j'en suis, c'est des petites choses. Fait que, tu sais, c'est rien de majeur. Fait que c'est le fun.
Mais c'est sur combien d'années d'apprentissage puis de testing.
C'est ça. Moi, je le sais que je vais apprendre toute ma vie. Wow. Là, c'est sûr et certain. Juste pour te dire la petite progression linéaire que j'aime beaucoup faire, parce que moi, ça me stimule vraiment créativement de faire ces recherches-là, de faire ces petits labs-là, parce que l'affaire, c'est que j'aimais mon hypothèse ou mon but, c'est quoi? C'est bon, mais mettons, je voudrais avoir un petit bleu pâle. Là. C'est ça, je peux le faire très simplement et rapidement en disant, ma base, c'est ça. Puis je décide d'y ajouter du carbonate de cobalt à, mettons, 0.5%. Puis là, par échelon, tu sais, je peux le faire juste sur 5. Moi, j'adore ça, faire ça.
0.5.
Donc, je vais juste rajouter 1.5 tout le temps, mais tu sais, en tamisant à chaque fois, ça se fait super rapidement. Dans le fond, c'est de faire un petit 100 grammes de glaçure, disons. Puis là, tu vas rajouter ton pigment, ton oxyde pour comme augmenter la concentration. Puis
mais
tu
as tout noté ça, là, évidemment. Ben, tout ça est noté pour que tu puisses référer chaque tesson.
Les tessons sont identifié, puis c'est ça. Puis récemment, dans la dernière année, justement, je me suis mieux organisée. Avant, je le faisais vraiment sur le fly, puis mettons, j'avais une vision un petit peu plus court terme. Maintenant, c'est parce que je me rends compte à quel point, des fois, un test que tu fais qui te donne pas ce que tu veux là, dans 2 ans, finalement, tu peux être genre, mais c'était quoi donc déjà cette espèce de petit beige-là que j'avais réussi à avoir?
Puis là, t'as comme des catalogues de lab à quelque part.
Ben, c'est ça. Ben, moi, je pitchais tout ça dans une boîte.
Ah ouais?
Fait qu'après ça, fouille dans la boîte, essaye de retrouver ton tesson. Mais tu sais, maintenant, je suis en train de m'élaborer un système pour pouvoir me référer plus facilement parce que justement, tu sais, je pense que ça doit faire 1 an et demi là, que je suis en train de travailler sur des nouvelles couleurs, entre guillemets, parce qu'on pourrait plus dire des teintes.
Oui.
Je suis beaucoup dans le noir et blanc. Mais disons, c'est ça. Disons, sur des nouvelles teintes. Puis c'est tellement long parce que je fais des labs et refais des labs parce que c'est sûr que je pars toujours d'une idée.
C'est ça, tu l'as en tête. Oui, c'est
puis,
ça.
Puis des fois, ben c'est ça, je vais-tu vraiment y arriver éventuellement? Tu sais, je reste tout le temps dans l'idée que oui, ça se peut que j'y arrive, mais ça va me prendre combien de temps? Parce que je fais pas ça à temps plein, on s'entend.
Non, non.
Je fais ça un petit peu
à travers ton horaire, à travers ta production.
Ouais. Donc, c'est ça, c'est pas, il y a des journées que je peux passer, mettons, une journée au complet dans une semaine là-dessus, mais je fais pas ça à toutes les semaines.
Non, c'est ça. C'est du R&D, c'est du recherche et développement, en fait, avec ça. Toi-même.
Oui, c'est ça, c'est ça, c'est moi qui décide. Moi, j'ai envie de faire ça, fait que je le fais. Mais moi, ça me nourrit, en fait, de faire ça. Puis ça vient...
Ça exige beaucoup de recherche aussi.
Oui, exactement.
Mais de la patience, moi, c'est ça. Écoute, tu le sais, là, moi, je salue. Ce travail-là, c'est tellement extraordinaire. Fait que le but, c'était vraiment d'essayer de faire la lumière sur tout le travail qu'il y a en arrière. Parce que parfois, tu sais, tu vas être dans des marchés, tu vas aller dans des petites boutiques, tu vas dire, mon Dieu, mais le prix... Ouais, mais c'est parce que là, c'est pas une machine à l'autre bout du monde qui fait ça.
Exact.
D'abord, la vie de quelqu'un. Moi, je pense qu'il faut revenir, puis on partira pas sur les grands principes du mouvement Arts and Craft, mais la place de l'artisan dans la société a été perdue à un moment donné, puis je pense que c'est le mouvement qu'on est en train d'essayer de retrouver. C'est le gagne-pain que quelqu'un a déterminé, c'est sa vie, puis c'est son expertise aussi, puis je pense que faut célébrer ça. Il y a quelque chose d'hyper précieux dans l'achat, que ce soit de la céramique, que ce soit du textile, que ce soit ou du travail d'ébéniste, c'est de vraiment redonner de la valeur à la place de l'artisan dans la société, d'encourager ça aussi, mais de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi aussi quelqu'un va faire ce choix-là de vie, parce que c'est toute une autre direction de vie personnelle, de carrière aussi. Puis tu me disais l'autre jour que, là, on est en 2023, au moment où on enregistre ça, il y a une popularité immense autour de la céramique, Depuis quoi? Depuis... C'est-tu à cause de la pandémie?
Quelques années, oui. C'était pré-pandémie, il y avait déjà des gens qui sont vraiment intéressés par le médium de la céramique, je pense. Il y a quelque chose de quand même... Je peux le comprendre, dans le sens que quand tu regardes quelqu'un tourner,
ouais.
Si t'as jamais fait
c'est
ça,
fascinant.
Il y a quelque chose de magique.
Ah oui.
Ça a donc bien l'air facile.
Oui. C'est tellement difficile.
Tu sais, la matière, c'est doux.
T'as un rapport à quelque chose de vivant, tu sais. On revient à ça, là, mais...
C'est aussi l'impact direct que tu as sur la matière, que tes gestes ont. Fait que t'as pas le choix d'être super concentré. Je pense que c'est comme il y a de ça aussi là-dedans, c'est d'être vraiment dans le moment présent, puis d'apprendre à faire quelque chose de tes mains aussi.
Ouais.
Puis de.
Ce qu'on a perdu beaucoup comme société, là.
Ben oui, c'est clair. Mais tu sais, la sorte de déconnexion avec l'industrialisation qu'on a toutes vécu.
Avec la révolution industrielle,
c'est ça, exactement.
Puis il faut comprendre que Cindy et moi, on est des grandes fans de mouvement Instant Craft. C'est tout un autre mouvement, mais c'était un mouvement qui était philosophique puis sociologique aussi.
Exactement.
Donc, on se replace là, à la fin du 19e siècle. Là. Mais il y avait des gens qui se posaient déjà des questions sur, à cause de la mécanisation, de la révolution industrielle, de la place que les artisans allaient perdre, ce qui n'avait jamais été questionné dans l'histoire de l'humanité avant ça.
Parce que c'est juste le progrès.
C'était comme... le progrès.
Ouais.
Puis déjà, à l'époque, puis ça fera l'objet d'un autre épisode, mais il y a des penseurs, puis des designers, des artisans qui se posaient politiquement contre la perte du rôle des artisans dans la société, parce que ça faisait partie du maillage sociétal. Puis je me demande jusqu'à quel point, tu sais, des fois, on va tellement s'éloigner de la nature de par le progrès, mais au final, on fait partie de la nature. Puis je pense que c'est probablement ça, les espèces de tendances qu'il va y avoir à un moment donné où les gens vont s'intéresser à la matière, avoir envie d'être plus proche de la matière, comme intention de se rapprocher de la nature aussi, parce que travailler le bois, travailler la fine, travailler l'argile, c'est ça, là.
C'est un retour à l'essentiel, un
peu.
D'être capable de faire quelque chose de ses mains,
ouais.
Ça rentre dans ça. Puis il y a aussi le côté, comme tu en parlais, ça a un côté vraiment social aussi, parce qu'on s'entend, on n'est plus dans le besoin. Ma céramique, tu sais, c'est pas de l'essentiel, là. Mm-hmm. Je veux dire, je fais pas du pain, tu sais, je fais pas de la nourriture. Mais... Par contre, c'est un métier d'art, donc ça fait partie de la culture.
Mm-hmm.
Puis...
Des savoirs ancestraux aussi.
Exact, exact. Puis tu sais, oui, l'objet vaut plus cher, mais c'est parce qu'il est fabriqué ici. En fait, c'est la vraie valeur que l'objet devrait avoir.
Oui, plutôt que traverser le monde.
Avec des gens qui gagnent une fraction du salaire.
Exactement.
Puis que ça voyage.
C'est de l'esclavage moderne, on va se le dire.
Fait que je pense que c'est un petit peu, c'est ça, de se rapprocher de l'essentiel puis de ce que, les choses devraient être en quelque part. Tu sais, si on réduit au plus simple, là.
Puis on parle même pas, en fait, tu sais, c'est quand même... un métier qui va pas faire de toi nécessairement quelqu'un de riche, là.
Ben, c'est impossible. C'est impossible. Je vois pas. Tu sais, je veux dire,
fait moi,
mon but, on s'entend, c'est pas de faire une usine avec ça. Au contraire, je veux dire, je pourrais pas être boss d'une usine quand je veux... Moi, c'est
quand
ça.
Tu veux le faire.
Je veux pas, tu sais, je veux pas travailler dans une usine. Fait que pourquoi je voudrais gérer une usine, une manufacture, tu sais, tu comprends?
Mais pour c'est moi, ta vie, tu t'es créé une vie, puis un métier, puis une profession, une expertise
à
échelle, travers.
C'est ça, à l'échelle humaine. Puis je reviens à William Morris,
oui.
Arts and Crafts.
Notre père spirituel.
Tu sais, le bonheur est vraiment, pour moi, en fait, tu sais, je dis pas que c'est la même chose pour tout le monde, mais pour moi, c'est clairement le bonheur, c'est dans faire le processus de A à Z. Puis, pour moi, personnellement, c'est clair que de faire quelque chose qui soit utilitaire, qui soit utile, qui serve dans la vie de tous les jours, il y a quelque chose là que je soupçonnais pas quand que j'étais en céramique au métier d'art à 17 ans. Je n'aurais jamais pu penser, moi, de faire des tasses pour gagner ma vie. Sérieusement, j'étais comme, mais ça donne bien. Non, je fais pas ça, moi, là.
Et pourtant!
Non, mais je pense que c'est ça. C'est une question de maturité, puis que j'ai trouvé la finalement vraiment quelque chose qui, je sais pas, ça s'est mis à résonner éventuellement.
Ouais.
C'est
ta place, t'as trouvé ta niche, t'as trouvé...
C'est le fun. Moi, ça, je sais pas, il y a comme quelque chose de rassurant dans faire quelque chose qui soit utile, qui soit utilisé. Décoratif, c'est une fonction, là.
C'est tout
aussi,
le débat de
dire,
la nomenclature d'art décoratif par rapport
c'est
tout un autre chose.
qui avait dit ça dans un de ses cours, il dit « La fonction décorative est une fonction. »
Wow!
Mais tellement, tellement. C'est vrai.
Le beau.
Le beau, c'est ça.
Pourquoi pas?
Ça nourrit l'âme, qu'est-ce que tu veux?
Toutes l'avenir de ta pratique, c'est quoi? Qu'est-ce que tu imagines ou qu'est-ce que tu aimerais voir se produire dans ta pratique?
Moi, je pense de ce que je vois, ça me fait comme plaisir de voir que je sens que il y a une conscience. Ben, tu sais, on a beaucoup entendu parler pendant la pandémie de l'importance de l'achat local.
Ouais.
J'ai vraiment l'impression, c'était déjà là avant la pandémie aussi. Les gens, j'ai l'impression, sont plus sensibilisés à ça.
Ouais.
Puis moi, ça me fait vraiment plaisir de voir ça parce que, mine de rien, ça fait... faut-tu 20 ans là, que j'en fais de la céramique déjà? Fait que, tu sais, on n'est plus à la même place que début 2000. Ça me fait vraiment plaisir de voir que les choses avancent, puis que ce que je fais est apprécié, puis que j'ai l'impression de moins l'entendre le rapport au prix, par exemple. Mais tu sais, c'est
fait qu'une meilleure compréhension, il y a peut-être une éducation qui s'est faite pendant la pandémie, je pense, de l'achat local, des métiers artisans, de l'importance de...
Et moi, je souhaite juste que, en fait, ce que je souhaite, c'est que ça continue, en fait, parce qu'on s'entend que ça va pas super bien économiquement, puis qu'on est tout atteint, mais c'est notre manière de consommer, c'est ça, on disait, tu sais, c'est comme, t'es pas riche à être céramiste dans la vie, parce que, tu sais, bon, on s'entend que, tu sais, il faudrait que je les vende vraiment cher, mes céramiques.
Il faudrait qu'on vive dans un autre type de monde, on va se le dire.
Mais c'est ça, l'affaire, c'est que c'est un choix de consommer moins, mais de consommer mieux, puis... Tu sais, j'ai pas beaucoup d'argent dans la vie, mais il y a des artisans que j'aime tellement ce qu'ils font. Tu sais, j'en ai pas beaucoup de pièces de eux, mais je vais en avoir, tu sais, comme une ou deux, puis je le sais que ça va me durer longtemps, puis tu sais, ça vaut plus que 10 pièces. C'est vraiment la valeur qu'on donne aux choses.
Ouais.
Puis tu sais, c'est sûr que, tu sais, quand tu dépenses, tu payes plus pour un produit, forcément... tu vas y penser plus, tu vas y accorder
plus soin aussi,
c'est ça, tu vas être déjà y accorder plus de valeur, mais...
Puis il y a une reconnaissance du travail, c'est-à-dire que c'est beau, là, les commentaires que t'as des gens qui achètent des pièces de toi, tu sais, je les vois passer, je pense que c'est même, j'ai envie de dire que ça relève probablement du niveau du rituel, de le rapport au rituel, puis... Ce rapport-là que t'as à l'objet, pour moi, ça reste toutes des petites œuvres d'art. Que ce soit utilitaire ou décoratif, rendu là, on s'en fout un peu. C'est toutes des petites œuvres d'art. Tu sais, il y a une intention derrière chaque pièce. Puis je pense que c'est ça qui manque au final avec des productions industrielles. Il n'y a pas nécessairement une intention derrière chaque pièce.
Absolument.
Tandis que là, chaque personne qui se procure une de tes pièces, peu importe c'est quoi, maintenant, ils connaissent le processus. C'est pour ça qu'ils ne savaient pas. Puis ils peuvent être plus éduqués, plus informés, puis qu'il y a peut-être une espèce, j'oserais dire, de reconnaissance, mais de gratitude aussi, parce que quand tu sais l'impact que ça a, le choix de la vie de quelqu'un, toute l'énergie qui est mise dans une pièce, il y a quelque chose de beau, fait que la beauté est même plus seulement esthétique, là, elle est dans l'intention, elle est dans le processus, elle est dans le geste, fait qu'on en revient à ça, là.
C'est très beau. C'est... tellement bien dit, mais totalement, je sais pas quoi dire de plus, tu sais.
Moi, je peux juste dire merci, je suis tellement heureuse d'avoir enregistré cet épisode-là. Je pense que des gens vont être fascinés par tout ça, je vais évidemment mettre toutes les références qu'on puisse trouver d'abord sur ce que tu fais déjà, puis sur les thèmes qu'on a pu utiliser, les terminologies, les processus, si les gens veulent fouiller un peu plus là-dessus. Merci Cindy, ma grande amie, précieuse amie, tellement intéressante que je trouve toujours inspirante.
Merci à toi de ton intérêt, de ta curiosité, je veux dire, c'est comme wow, t'es la meilleure des supporters.
Fan number one. Ah, oh, c'est beau.
Complètement.
Merci Cindy.
Merci d'avoir été parmi nous. Je vous invite à vous abonner au podcast Innover Créa sur Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts. Un merci tout spécial à Millimétrique qui a composé mes thèmes musicaux. Je vous encourage à découvrir sa musique sur Bandcamp. Et à très bientôt!